Merci, monsieur le directeur. Moi, je suis très honoré d'être dans cette maison, dans ce patronage qui porte le nom auguste de Jules Vallès. Je ne sais pas s'il aurait vraiment apprécié la manière dont je me tiens devant vous. Je me trouve un peu en position d'autorité, n'est-ce pas? Je ne sais pas si ce n'est pas une position très anarchiste, mais bon, je n'y suis pour rien. Ne m'en voulez pas, voilà. On va parler de ce sujet grave, effectivement, qui est en fait la quasi-disparition programmée, en voie de se réaliser, de ce qu'on nomme globalement les chrétiens d'Orient, et cette disparition de ces territoires sur lesquels ils vivent depuis 2000 ans et plus, puisque souvent leur présence remonte avant le christianisme, puisqu'il ne s'agit pas simplement d'églises, il s'agit de peuples, il s'agit de communautés linguistiques, il s'agit de communautés culturelles. Donc cette disparition de leur territoire, finalement, c'est une forme de catastrophe de civilisation qui, en fait, nous renvoie à l'idée que si nous considérons qu'il y a une forme de biosphère pour laquelle il nous faut lutter, s'il y a une forme d'écologie de la nature, il y a aussi une forme d'écologie des cultures, et que la disparition de cultures entières, en fait, n'est-ce pas, de cultures vivantes, de cultures transmises, de cultures qui ont traversé l'histoire, mais cette disparition, elle est menaçante pour le concept même d'humanité. C'est en cela que avais parlé avec vous ce soir des chrétiens d'Orient. Évidemment, le fait qu'ils soient chrétiens parfois peut faire peur, dans le sens où on se dit, mais je ne veux pas être mêlé à une cause qui pourrait sembler identitaire, particulariste, hein, c'est pas, c'est, faudrait pas être du côté du white power, du pouvoir blanc en quelque sorte. Et donc parfois, effectivement, le sort de minorités plus lointaines nous intéresse plus ou nous semble plus propice, parce qu'il y a avec ces chrétiens d'Orient cette proximité. Eh bien, on va le voir, c'est un peu une fausse proximité, et ce n'est pas parce qu'ils s'intitulent chrétiens qu'ils sont plus victimes, mais ce n'est pas non plus parce qu'ils s'intitulent chrétiens qu'ils sont moins victimes. Voyez, c'est ce qu'il faut bien comprendre. Alors, je vais commencer par vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un médecin militaire français dans les années 1925-30, à l'époque où la France exerce un protectorat sur le Maroc. C'est un jeune médecin militaire bien formé. Et puis, il apprend un coup qu'on va l'envoyer en Syrie, à Alep. Vous savez, Alep, aujourd'hui, cette ville martyre. Et donc, il se dit que, comme c'est un bon militaire, un bon Français, qui a une bonne éducation historique, il se dit qu'il faut qu'il se documente à tout prix sur ces chrétiens d'Orient pour savoir qui ils sont. Et lorsqu'il arrive à Alep, en fait, il est plein d'émotions parce qu'il a lu des tas de livres sur les chrétiens d'Orient, sur cette incroyable mosaïque de langues, de peuples, de cultures. Et puis le voilà à l'hôpital, et puis en face de lui, il y a un vieux petit monsieur qui est allongé sur son lit, qui est malade. Et on lui a dit, l'infirmière lui a soufflé à ce médecin que c'est un chrétien d'Orient. Et donc il est très ému, notre jeune médecin français. Et il se penche sur le monsieur, il ne veut pas rater son coup, il sait que les différences entre les chrétiens d'Orient sont importantes, n'est-ce pas? Qu'il faut ménager leur susceptibilité. Et comme il a bien appris sa leçon, il dit, alors vous, monsieur, vous êtes un Arménien apostolique, vous êtes un Libanais maronite, vous êtes un grec orthodoxe ou peut-être un grec catholique, ou alors peut-être même que vous êtes un syro-jacobite. Et le monsieur Lorient lui dit, non, 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 moi je suis asthmatique. Et je crois que c'est la première des leçons, c'est qu'on a affaire véritablement à des hommes, des femmes, des enfants qui aujourd'hui traversent une tourmente de l'histoire, qui risque fort de leur être fatale, qui leur est déjà quasiment fatale en Irak, qui commence à leur être fatale en Syrie et dans tout de ce qu'on appelle le Proche-Orient. Et donc, il faut essayer de comprendre ce qui se passe, et de comprendre d'ailleurs, puisque c'est le sujet qui nous occupe ce soir, en quoi ce sujet a un rapport avec ce qu'on nomme en France la laïcité, n'est-ce pas? Puisque j'annonce la couleur, leur disparition sonne le glas, en fait, d'une forme d'espérance laïque dans ces pays. Je vais vous expliquer pourquoi et comment. Alors la première des choses, déjà il faut se laver la tête. La première des choses, c'est que le christianisme, contrairement à ce que vous pensez, n'est pas une religion occidentale, même si le christianisme a fleuri en Occident, mais c'est à l'origine une religion orientale. Une religion qui est née là-bas de l'autre côté de la Méditerranée, dans ce que sont aujourd'hui Israël et la Palestine, qui s'est très vite étendue dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'Égypte, la Syrie, la Turquie, n'est-ce pas ? Et c'est dans cette région du monde que le christianisme s'est formé, c'est là où s'est formé l'évangile, c'est là où sont formées les premières grandes prédications, c'est là où ont vécu pendant des siècles les principaux pères de l'Église, ceux qui ont formé la doctrine chrétienne, c'est là où est apparu le monachisme, vous savez, les monastères, les bénédictins, les trappistes, tout ça, ce sont les descendants, en fait, des premiers moines qui sont apparus au IVe siècle en Égypte, entre les villes aujourd'hui d'Alexandrie et le Caire. Ce sont des hommes, des femmes qui, au IVe siècle, sont partis au désert parce que la conversion de l'Empire au christianisme leur faisait craindre que la foi chrétienne allait être affadie. Mais c'est aussi Alexandrie, cette ville phare, qui était une ville à la fois grecque, juive et ce qui allait être copte, c'est-à-dire de ce peuple égyptien descendant des pharaons. C'est dans cette grande ville, Alexandrie, qu'est née la première école cathédrale, c'est-à-dire la première école catéchétique, c'est-à-dire le premier essai de rationalisation, en quelque sorte, de la foi chrétienne et de son explication. Enfin, et non pas enfin, parce que je pourrais égrener, c'est en Orient, en Turquie, dans la Turquie actuelle précisément, que se sont déroulés les sept premiers conciles œcuméniques, c'est-à-dire ces réunions de tous les évêques de ce qu'on appelait alors le monde habité, qu'on croyait être le monde habité, l'Empire romain, ben, convoqué par l'empereur. L'Empire s'était converti au christianisme. Les chrétiens étaient très désunis sur des questions de foi. Il fallait dire ce qu'était la foi chrétienne. Ces conciles l'ont fait. Nicée, Constantinople, ouais, c'est le credo que l'on récite dans les églises orthodoxes, catholiques, protestantes aujourd'hui, je crois en un seul Dieu, etc. Ça s'est fait. En fait, c'est sept conciles sur cinq siècles, entre 325 et 787, sur quatre siècles, se sont faits dans le territoire de la Turquie actuelle. Vous voyez ? Donc, quand on pense à ces chrétiens d'Orient, c'est ça qui m'importe, que je veux que vous compreniez, on ne parle pas de petits frères égarés, on ne parle pas d'une avant-garde de l'Occident, qui serait née là-bas après les croisades, on les aurait laissés, puis il faudrait aller s'occuper d'eux comme une sorte de... Non. Nous sommes en dette du christianisme par rapport à ces peuples qui ensuite ont beaucoup souffert à travers l'histoire, mais qui ont gardé ce lien avec le christianisme primitif. Et ensuite, ce ne sont pas nos petits cousins égarés, ce sont en fait nos précurseurs. Vous voyez ? Et qui plus est, on peut dire que le christianisme occidental, c'est le deuxième point, non seulement est complètement en dette par rapport à ce christianisme oriental, mais en plus que le christianisme occidental s'est assez vite érigé contre sa source, contre ce christianisme oriental, et que, en fait, aujourd'hui, se pose véritablement un peu la question d'une réparation de la mémoire du christianisme, puisque ces chrétiens d'Orient, assez rapidement, après le 7e siècle, après l'Égypte, après la conquête musulmane, après la sortie des cavaliers de Mahomet de la péninsule arabique, ont souffert des musulmans, mais ils ont aussi beaucoup souffert des chrétiens d'Occident. Il faut le savoir, n'est-ce pas ? Donc ce sont véritablement des peuples, des communautés qui ont été prises en étau entre l'Occident et le monde musulman, entre le monde occidental, la chrétienté latine, et le monde musulman. Et donc, lorsqu'on s'occupe des chrétiens d'Orient, encore une fois, on n'est pas dans la revendication, n'est-ce pas, identitaire, mais on est véritablement dans une redécouverte aussi de l'histoire de l'Occident, de sa complexité et d'une dette par rapport à l'Orient. Ces chrétiens d'Orient, qui vivent donc dans ces pays qui s'appellent la Turquie, la Syrie, l'Irak, la Jordanie, les territoires palestiniens, Israël, l'Égypte. Il y en a aussi qui vivent en Éthiopie, il y en a aussi qui vivent dans le sud de l'Inde, au Kerala, mais il y en a aussi qui vivent dans le Caucase, les Arméniens, mais on s'en occupera moins parce que c'est ce Proche-Orient qui est aujourd'hui le foyer, je dirais, hein. Évidemment, l'épicentre planétaire de toutes sortes de conflits, et deuxièmement, c'est bien ce Proche-Orient aussi c'est bien ce Proche-Orient qui risque de disparaître. Et troisièmement, c'est bien ce Proche-Orient qui est le berceau du christianisme. Et donc la question qui se pose, c'est de savoir si demain il y aura encore des chrétiens là où le christianisme est né. N'est-ce pas? Mais je vous le disais donc, leur vocation a toujours été en fait d'être entre les deux mondes. Ils sont à la source du christianisme, mais ils ont été aussi à la source de l'islam comme civilisation. Pourquoi? Parce que lorsque les cavaliers de Mahomet ont pris Damas, Jérusalem, Alexandrie, Bagdad, et alors qu'ils sortaient du désert, évidemment, avec leur propre foi issue du Coran, ils ont malgré tout été confrontés d'un coup à un monde qui n'était plus celui du désert, mais qui était celui des villes, dans lequel il y avait des bibliothèques, il y avait des églises, il y avait des synagogues, il y avait des sectes, un monde multiple, n'est-ce pas? Et on peut dire que l'islam est une civilisation de synthèse, et que les chrétiens d'Orient ont participé, parce que c'était eux la population principale au moment de la conquête musulmane, n'est-ce pas? Et donc on voit qu'en fait, et c'est ça qui est intéressant dans leur statut, c'est que ce sont des hommes, je dis des hommes au sens de l'humanité, mesdames, hein, la femme étant un homme comme un autre, ce sont des hommes en fait de l'entre-deux, ce sont des hommes du milieu, ce sont des hommes de la médiation, n'est-ce pas? Ce qui constitue un Orient pour les Occidentaux, mais il constitue un Occident pour les Orientaux. Parce qu'ils sont véritablement pile à l'intersection des mondes. Et ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'avec cette guerre des civilisations qui est devenue programmatique, en fait, personne ne veut garder des médiations et des médiateurs. Et c'est ça l'histoire de leur fatalité actuelle. Donc ces chrétiens, qui souvent ont été les héritiers des cultures plus anciennes, n'est-ce pas? C'est dans la liturgie des Coptes d'Égypte que l'on retrouve la trace de la musique des pharaons. C'est chez ceux qu'on appelle les Assyriens ou les Chaldéens qu'on retrouve l'araméen comme langue liturgique et parfois aussi comme langue véhiculaire, comme langue parlée. Cet araméen qui était la langue la plus répandue du Proche-Orient à peu près à l'époque du Christ et des rabbins qui allaient mettre par écrit le Talmud, qui était une langue, l'anglais de l'époque pour le Proche-Orient, et qui donc se retrouve, la langue du Christ en quelque sorte, qui est une langue qui remonte d'ailleurs, on va dire, à Abraham, vous voyez, et qui se retrouve chez ces chrétiens qui en sont les ultimes dépositaires. Et puis, évidemment, chez les chrétiens que l'on dit arabes, mais qui sont en fait des chrétiens hellénisés au départ, on retrouve la liturgie de la Grèce, de Byzance, et à travers Byzance, de la Grèce antique, les chants de la Grèce antique. Donc en fait, ils ont été aussi de formidables chaînons, et des chaînons vivants de communication entre nous et les premières civilisations de l'écriture. C'est en tant que tels qu'ils ont accueilli le christianisme, qu'ils l'ont fécondé, et c'est en tant que tels aussi qu'ils ont vu arriver l'islam et qu'ils y ont contribué. Vous voyez? Ça, c'est pour leur sort culturel. Mais leur sort politique, lui, il a été tout à fait désastreux. Il a été désastreux, d'ores et déjà sous l'Empire romain, parce que ces chrétientés qui étaient des chrétientés des marges, des chrétientés des marches, des chrétientés en fait périphériques, qui souvent avaient des langues qui n'étaient pas le grec, qui n'étaient pas le latin, n'est-ce pas, ont été perçues comme hérétiques par le pouvoir central. Et ont été, avant l'arrivée de l'islam, déjà largement persécutés par le pouvoir romain. Donc déjà, ces chrétientés, encore une fois, peuple et église, ont eu affaire à cette première répression qui était que leur propre culture, leur propre langue, n'allant pas dans le sens de la culture et des langues dominantes, n'est-ce pas, ont eu à se battre et à résister. Ça, c'est entre le 4e et le 6e siècle de l'ère chrétienne. Au 7e siècle, l'islam arrive et paradoxalement, par exemple en Égypte, ces chrétiens accueillent les musulmans comme des libérateurs de ce pouvoir romain qui les persécute. Vous voyez comme l'histoire est complexe, hein? Mais très vite, ce pouvoir musulman C'est là où nous entrons dans les sujets qui vous intéressent, mais je devais vraiment faire ce parcours préliminaire. Donc le pouvoir musulman, lui, arabo-musulman d'abord, ensuite turc, va instaurer ce statut que le Coran réserve aux chrétiens et aux juifs, parce que eux aussi, en livre, eux aussi sont mentionnés par le prophète, et qui est le statut de dhimmitude en français, dhimmi en arabe, n'est-ce pas, qui veut dire protégé. Mais évidemment, ce statut de protection, qu'est-ce qu'il implique ? Il implique une citoyenneté de deuxième ordre, une forme d'apartheid religieux, une obligation au communautarisme. C'est-à-dire que lorsque vous êtes sous le pouvoir musulman au 8e siècle ou au 9e siècle, à Alexandrie, à Jérusalem ou à Bagdad, si vous voulez rester chrétien, vous le pouvez, à la condition de porter des signes distinctifs qui vous font identifier tout de suite comme chrétien, de payer un impôt supplémentaire, de renoncer à avoir la charge des plus hautes responsabilités. Pour dire comme plus simplement, si vous êtes très doué, vous pouvez être numéro 2, mais vous ne serez jamais numéro 1 nulle part, parce qu'on ne peut pas vous confier de responsabilité ultime. Et vous devez accepter de vivre en communauté, autour de vos lieux de culte, n'est-ce pas ? Et dernier point, c'est le point le plus important, d'être totalement identifié, en fait, à votre confession ou religion, si vous préférez, n'est-ce pas ? C'est donc une anti-définition par rapport à ce que nous, nous concevons de la citoyenneté, n'est-ce pas ? Puisque, en fait, il n'y a pas d'évolution possible en dehors de la conversion à l'islam. En dehors de cela, votre citoyenneté, elle est parfaitement statique, elle est inférieure, elle est limitée, et elle conditionne l'entièreté de votre existence, y compris votre localisation, votre lieu d'habitation, n'est-ce pas ? Évidemment, ce statut a duré des siècles. En fait, il a été renchéri, ce statut, je continue sur ce thème, hein, qui est le thème qui vous occupe, après on pourra parler de l'actualité lorsque nous débattrons ensemble. Il a été renchéri par l'arrivée des Turcs, qui ont supplanté les Turcs, et particulièrement dans le cadre de l'Empire ottoman, qui à un moment a été le plus grand empire du monde, puisque c'est un empire qui allait des Balkans, hein, de ce que sont aujourd'hui, de ce qu'était hier la Yougoslavie, jusqu'au Maghreb, jusqu'à Alger, en faisant le tour de toute la Méditerranée. Hein ? Puisque les Turcs ont été arrêtés à Lépante et à Vienne, mais ont occupé toute une partie de l'Europe pendant trois siècles et demi, ce qui explique d'ailleurs les présences musulmanes en Albanie, au Kosovo et, en Bosnie, n'est-ce pas ? Les Turcs vont complexifier la dhimmitude en créant le système du millet. Le système du millet, c'est le système de la dhimmitude, si ce n'est qu'en plus les communautés sont identifiées, c'est pas génériquement chrétien, mais ça va être chrétien orthodoxe, chrétien orthodoxe grec, ou chrétien orthodoxe arabe, ou ça va être arménien apostolique, ou arménien catholique, etc. Et en fait, chaque communauté, n'est-ce pas, qui s'étend sur tout l'Empire, parce que là, vous pouvez vivre au Caire comme à Istanbul, ce n'est pas la question, vous relevez de votre communauté dans laquelle vous êtes inscrit. Bon, c'est le même système de citoyenneté inférieure, c'est le même système d'impôt particulier, de double impôt, de double imposition, c'est le même système de limitation en fait, des carrières et des droits. Mais qui plus est, vous êtes représenté auprès du pouvoir central, auprès du pouvoir sublime porte du sultan, hein, vous êtes représenté par votre chef religieux. Votre chef religieux, c'est votre chef politique. C'est lui qui lève l'impôt au sein de la communauté pour le pouvoir central. n'est-ce pas ? C'est lui qui vous représente auprès du pouvoir central. Au sein de votre communauté, c'est le droit canonique de votre communauté qui régit les relations pour tout ce qu'on appelle le personnel, c'est-à-dire en droit, c'est-à-dire la naissance, le mariage, la mort, le patrimoine, voyez ? Hein ? Et tant que ce droit canonique ne contredit pas la charia, c'est-à-dire le droit coranique, le droit musulman, islamique. C'est votre chef religieux, donc, qui administre, au nom des lois propres de votre communauté, l'entièreté, là encore, de votre existence. Vous n'avez aucun accès de représentation politique en dehors de lui. Et c'est lui qui représente l'État central auprès de vous. Et c'est lui, encore une fois, qui lève l'impôt. Ce qui veut dire qu'en fait, l'Empire ottoman, c'était une juxtaposition de communautés hiérarchisées, évidemment, parce qu'il y a des communautés qui sont plus ou moins proches du pouvoir, n'est-ce pas ? Les communautés les plus proches étant évidemment les communautés musulmanes sunnites, parce que ce sont elles qui constituent le noyau du pouvoir, n'est-ce pas ? Et après, en cercle concentrique, vous vous éloignez, et soit, en fait, vos difficultés grandissent, soit vos facilités augmentent. Ça dépend de votre proximité avec le pouvoir. Mais ça dépend parfois aussi de l'habileté de votre chef religieux. Votre chef religieux, lui-même, il est comptable de votre soumission au pouvoir central. C'est-à-dire que si la communauté bronche, c'est lui qu'on décapite. N'est-ce pas ? Ce qui veut dire que votre représentant, il est tout de même dans une situation assez particulière. Votre représentant, c'est d'abord le représentant du pouvoir. Oui. Et c'est comme ça que ces chrétiens d'Orient ont vécu. Alors, qui plus est, pendant tous ces siècles, on va dire du 7e siècle, enfin, l'avancée musulmane a été tout à fait graduelle. Hein, puisque ce sont l'Égypte et le Levant qui sont d'abord tombés aux mains de l'islam arabe, et c'est ensuite le territoire actuel de la Turquie, et ensuite le monde balkanique, qui sont tombés aux mains de l'islam turc ottoman principalement. Et donc, ce mouvement étant parachevé sur 7 siècles, entre le 7e et le 15e siècle. Hein. Mais dans ce monde-là, au 15e siècle, vous voyez que c'est ça la difficulté des équilibres. Hein. Dans ce monde-là, on compte à peu près qu'il y a 30 à 40% de chrétiens. Au 15e siècle. Oui. Refaites ce circuit aujourd'hui, refaites le monde, on va dire, de Belgrade ou Sarajevo, faites le tour pour arriver à Alger. Voyez. Et vous verrez donc qu'est-ce qui s'est passé. Il y a eu un décrochage démographique. Ça a été un des premiers problèmes de ces communautés. Le deuxième problème de ces communautés, c'est que l'Occident s'est réveillé et a affirmé sa puissance coloniale, n'est-ce pas ? Et l'Occident ayant affirmé sa puissance coloniale, eh bien l'Occident a considéré que dans sa lutte contre l'Empire ottoman et accessoirement l'islam, ces chrétiens d'Orient étaient forcément ses supplétifs. Ils étaient chrétiens. Donc ils appartenaient quelque part à l'Occident. Et l'Occident a développé une politique, en fait, de ralliement de ces chrétiens à l'église romaine, et puis ensuite aux différentes églises protestantes et au 19e siècle, anglicanes, luthériennes et autres, et puis au 20e siècle, aux églises évangéliques américaines. Ce qui fait que les chrétiens d'Orient, qui s'étaient installés dans des églises indépendantes, puisqu'ils avaient rompu avec Rome, ils avaient rompu avec l'Empire romain, ils avaient appris à vivre sous l'islam, dans un rapport très particulier, mais en résistant. Ils ont vu d'un coup s'ouvrir un deuxième front, et ce deuxième front, c'était la volonté de captation de l'Occident sur les populations chrétiennes orientales, avec la formation d'églises clones, qui étaient des églises qui reproduisaient les églises orientales, mais qui, elles, étaient ralliées à Rome, et ensuite avec des églises clones protestantes. Ce qui explique d'ailleurs que chez ces chrétiens d'Orient, vous trouvez l'entière histoire du christianisme, puisque vous avez les premières chrétientés des premiers siècles qui se juxtaposent ensuite avec toutes les formes de rites et toutes les formes de confessions et toutes les formes de rattachement possibles, y compris des chrétiens arabes, puisqu'entre-temps ces chrétiens se sont arabisés, qui eux sont de rites latins, vous voyez, qui sont directement rattachés à Rome. Donc vous avez une mosaïque tout à fait incroyable, qui a fini par se résoudre, en fait, dans des ensembles nationaux. Alors, l'opposition, en plus, de l'Occident à l'islam, s'est doublée d'opposition intra-occidentale, puisque la France, d'un côté, au nom de l'Église catholique, s'est portée comme la protectrice des chrétiens d'Orient, mais des chrétiens d'Orient qui étaient catholiques, qui étaient rattachés à Rome, pendant que la Russie tsariste, elle, se portait protectrice des chrétiens d'Orient, mais qui, eux, étaient orthodoxes, et qu'elle voulait voir être rattachée à Moscou. Cette tension entre la France et la Russie, ça explique la guerre de Crimée, pas celle d'aujourd'hui, celle de 1850, c'était pas si longtemps que ça non plus, n'est-ce pas, hein, sous Napoléon III, et le début de la guerre de Crimée, c'est une rixe entre moines orthodoxes grecs et moines franciscains italiens à Bethléem pour un petit mètre carré d'église, quoi, hein, de la basilique, pour savoir, en poussant le chandelier pour savoir si on ne pouvait pas gagner un tout petit peu d'espace, puisque vous savez qu'en Terre Sainte, Dieu est un agent immobilier qui a la terre à la vérité. Et cette rixe a fait que la France a demandé des réparations à la Russie, la Russie à la France, et ça a fini dans cette guerre de Crimée qui a été surtout à l'avantage de l'Angleterre, qui ainsi a pu garder ses routes maritimes, de la même manière que parfois les conflits dans lesquels nous entrons aujourd'hui sont surtout à l'avantage de l'Amérique et très peu au nôtre, n'est-ce pas ? Lors de la guerre de Crimée, le cardinal archevêque de Paris, Mgr Silbur, bénissait les troupes napoléoniennes en leur demandant d'aller extirper une fois pour toutes le schisme orthodoxe. Oui. C'était déclaré une guerre sainte. C'était en France en 1850. C'est pas... pour ça que parfois, lorsque nous jetons un regard, je dirais, très critique sur les autres, il faut parfois nous rappeler aussi un peu de notre propre histoire. Rassurez-vous, de l'autre côté, à Saint-Pétersbourg, le métropolite de Saint-Pétersbourg faisait de même et bénissait les troupes tsaristes. Je veux dire, ne croyez pas qu'il y avait... ne croyez pas que là-dessus, il n'y a pas de privilège dans la bêtise. Le problème de cette volonté de captation de l'Occident, elle remontait aux croisades. Or, au moment des croisades, beaucoup de chrétiens d'Orient n'ont pas voulu lutter à côté des croisés, parce qu'ils étaient chrétiens, mais ont préféré lutter à côté des musulmans, leurs compatriotes, selon un réflexe simplement de la défense du clocher, n'est-ce pas, hein ? Ces types qui arrivaient d'Occident, qui même s'ils avaient une croix en rouge sur leur cape, eh bien, étaient pour eux des étrangers, alors que c'est avec les musulmans qu'ils partageaient leur vie. Et ça, ça a été un aspect tout à fait fort dans la vie des chrétiens d'Orient, que de se vouloir enraciner dans leur réalité locale et ne pas être considérés comme des extraterrestres, n'est-ce pas ? Encore une fois, leur concours à l'édification de l'islam lui-même, en tout cas culturellement, que ce soit dans l'architecture, la musique, la philosophie, n'est-ce pas ? On parle très souvent du fait que ce sont les Arabes qui ont ramené Aristote en Occident, puisque les Latins l'avaient oublié au Moyen-Âge, n'est-ce pas ? Évidemment, les Arabes n'avaient pas trouvé Aristote dans le Coran. Ils l'avaient trouvé dans ce qu'on appelait alors les maisons de la sagesse, qui étaient des maisons de traduction du grec au syriaque, tenues par des chrétiens à Bagdad au 8e siècle. Des Arméniens aussi, non, mais je donne des exemples. Je ne peux pas tout faire sur les chrétiens d'Orient, parce que chaque fois, il faut... Donc voilà où on en est. Tiraillé entre cet islam, pour qui le chrétien est un citoyen de deuxième zone, et cet Occident, pour qui le chrétien d'Orient est un supplétif. En d'autres temps, on aurait dit, entre guillemets, sans offenser personne, un harki. N'est-ce pas ? Vous voyez ? C'est ça. dépossédés de leur propre histoire politique, donc dépossédés aussi de tout horizon propre politique, et donc développant évidemment, je dirais, énormément leur culture, leur culte, parce que pour eux c'était la même chose, puisqu'il n'y a pas d'expression culturelle possible, n'est-ce pas, lorsque vous êtes dans des ghettos communautaires. Votre culture, elle est interne, mais elle ne se mêle pas avec la grande culture du moment, puisque vous n'êtes pas un acteur historique. Et donc, pendant très longtemps, ils ont cultivé ce sens de la transcendance, de la liturgie, de la beauté, enfin, etc. Tout en adoptant jamais, je dirais, le cléricalisme régnant en Occident, puisque un des grands credos théologiques des chrétiens d'Orient, c'est que la vérité de l'Église se tient dans le peuple, laos en grec, hein, d'où vient laïque, et non pas dans la hiérarchie, n'est-ce pas ? Donc, une idée du peuple de Dieu, pour parler en termes théologiques, on retrouve ça aussi dans la théologie de la libération, c'est assez proche de ce point de vue-là, une idée du peuple de Dieu qui est la source de la vérité, parce que c'est le peuple qui porte l'Église, et non pas une Église structurellement administrative qui fonderait le peuple dans sa foi. Ça, c'est très important. Pourquoi c'est très important ? Parce qu'à partir du XIXe siècle, il y a les guerres de révolution nationale, sur un modèle romantique, parfois napoléonien, qui vont embraser l'Europe, les Grecs, les Serbes, les Bulgares, qui sont tous sous l'Empire ottoman, et qui vont se révolter afin d'essayer de former des nations. Alors c'est très compliqué, parce que ces peuples sont de tradition orthodoxe, et pour eux, généralement, l'identité religieuse, l'identité politique, c'est une seule et même chose. Le fait d'être passé sous l'islam a renforcé cette origine byzantine, n'est-ce pas ? Il n'y a pas de notion d'état-nation, là, qui vaille. Leur histoire, leur genèse symbolique est très différente. C'est un, excusez-moi pour l'anglicisme, c'est un package deal pour eux. Vous voyez, je veux dire, le culte et la culture. Mais malgré tout, ces peuples vont s'efforcer de faire des nations. Ils vont y arriver avec l'aide de l'Europe, très souvent. Une aide parfois un peu controuvée et compliquée, comme en Grèce, puisqu'on va aider les Grecs à se révolter. Mais on va leur coller une dynastie bavaroise, vous voyez, pour être sûr quand même qu'ils ne vont pas faire n'importe quoi, ils feront n'importe quoi, et ils vont continuer à le faire, puisque, c'est juste pour la petite histoire, vous l'avez peut-être lu, les principaux rapports sur le fait que la Grèce va très mal économiquement et qu'il n'y a pas d'impôts qui soient levés, etc., datent de 1840, hein, avec des émissaires envoyés par l'Europe déjà, pour constater que... Vous constatez quoi ? Que l'Europe est un pays, que la Grèce est un pays balkanique, un pays post-ottoman, et un pays qui a vécu sur une logique orientale plutôt qu'occidentale. Mais je ferme la parenthèse. De l'autre côté de l'Empire, d'autres peuples veulent se révolter. De l'autre côté de l'Empire, d'autres peuples veulent se révolter. Ces peuples sont des peuples chrétiens, mais pas seulement. Et en fait, ces révoltes vont être annihilées dans le sang par un effet d'accordéon entre le monde musulman ou sorti de l'islam et le monde occidental, dans une forme de convergence assez terrible dont je vais maintenant vous dresser le tableau. Les Arméniens sont les premiers à vouloir reconquérir leur territoire et reconquérir leur autonomie politique. Ils sont appuyés par la Russie tsariste, qui en 1915, parce qu'il y a la Première Guerre mondiale, va les abandonner à leur sort. Ça va être le génocide des Arméniens de Turquie, 1,6 million de personnes, accompli par les jeunes Turcs, et pas du tout accompli au nom de l'islam, mais là, les jeunes Turcs, c'est un mouvement progressiste, c'est un mouvement moderniste, et c'est un mouvement nationaliste. Vous voyez ? C'est plutôt 1793 que le Coran, n'est-ce pas ? Ces jeunes Turcs sont les précurseurs de Mustafa Kemal Atatürk qui va vouloir laïciser la Turquie. Mais laïciser pour les jeunes Turcs la Turquie, ça veut dire se débarrasser des minorités. Vous voyez ? Et s'il le faut, en les anéantissant. En 1923, les Grecs sont incités par la France. Alors, en 1920-21, les Grecs sont incités par la France et par l'Angleterre, mais par la France surtout, à, parce que l'Empire ottoman est défaillant, l'Empire ottoman a choisi le camp de l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale, donc à reconquérir Istanbul, la Cappadoce, les rivages de la mer Égée, Izmir, Smyrne à l'époque. Du fin fond de l'Anatolie, un jeune général, Mustafa Kemal, le futur Atatürk, lève des troupes. Les Grecs perdent pied militairement. Ils perdent d'autant plus pied militairement que la France, entre-temps, a retourné son alliance et a abandonné les Grecs au profit des Turcs. C'est la grande catastrophe d'Asie mineure. En 1923, avec la main active de la Société des Nations, puisque c'est la Société des Nations qui organise ce grand drame, se produit l'échange des populations d'Asie mineure. Les Grecs, qui sont présents sur les côtes de la mer Égée depuis 25 siècles, doivent partir vivre dans cet État grec qu'ils ne connaissent pas, Petite Grèce, que vous connaissez aujourd'hui, vous, pendant que 300 000 Turcs, alors ils sont 1 600 000 là encore les Grecs, pendant que 200-300 000 Turcs de Grèce, entre guillemets, doivent aller vivre dans ce nouveau pays, la Turquie, qu'ils ne connaissent pas, et ce pays qui n'existe pas encore, puisque la Turquie va sortir des décombres de l'Empire ottoman. C'est la première purification ethnique de l'histoire. Elle a lieu avec la bénédiction de l'ancêtre de l'ONU, n'est-ce pas ? Ce sont les chrétiens d'Orient qui en sont les victimes, de la même façon que les chrétiens d'Orient, avec le génocide des Arméniens, avaient été victimes du premier génocide de l'histoire. Et puis, en 1933, là, ce sont les Assyriens. Ils sont en Irak, dans le sud-est de la Turquie et en Irak, autour de Mossoul, ça devrait vous dire quelque chose. L'Angleterre a donné à la dynastie Hachémite l'Irak, cette dynastie qui vient de la Mecque, qui se retrouvera un peu plus tard, en fait, seulement à la tête de la Jordanie. Hein, c'est la dynastie régnante en Jordanie aujourd'hui. Et voilà que les Assyriens se rebellent, qu'ils veulent eux aussi reconquérir leur territoire ancestral, eux aussi acquérir leur liberté politique. Ils sont massacrés par les Hachémites, avec l'aide de l'Angleterre. 300 000 hommes, femmes, enfants anéantis, puisque, entre-temps, évidemment, qu'est-ce qui s'est passé ? On a découvert du pétrole à Mossoul. Cet événement, avant la fin de la, avant le début de la Deuxième Guerre mondiale, clôt, je dirais, le cycle des révoltes des chrétiens d'Orient pour essayer de se redonner une indépendance. En Turquie, il ne va plus du tout y avoir de chrétiens d'Orient. Ils étaient, donc je vous disais, à peu près 30-40% là pour sûr en 1900. Ils sont 0,1% aujourd'hui. La politique dite laïciste d'Atatürk va en fait mener à une éradication des minorités qui sont pressées de partir, non pas pour des raisons religieuses, bien que ces minorités soient très souvent chrétiennes, comme les Grecs, les Arméniens, parce qu'elles sont considérées exogènes, c'est-à-dire non turques, donc indésirables. Puisque la laïcité en Turquie, vous en parlerez avec d'autres, mais c'est d'abord un nationalisme, n'est-ce pas ? Et une fabrique d'une citoyenneté assez imaginaire, puisque la Turquie n'a pas véritablement existé, qu'il a existé un empire ottoman qui était un empire justement de minorités et de communautés, n'est-ce pas ? Donc cette fabrique nationaliste se revendique de la laïcité, mais vous l'avez vu récemment, cette laïcité n'en est pas véritablement une, puisqu'en fait, elle n'a pas du tout empêché le retour d'un islamisme politique, d'un islam politique, d'un islamo-conservatisme, dont on voit aujourd'hui les résultats. C'est dans le monde arabe, après la Deuxième Guerre mondiale, que va se dérouler, en fait, la grande aventure ultime des chrétiens d'Orient, et qui, là, est une aventure laïque, puisque les chrétiens d'Orient participent depuis la fin du XIXe siècle à la Nada. Sous l'Empire ottoman, sous l'Empire turc, la culture arabe avait été réprimée. Pendant ce temps, les chrétiens s'étaient arabisés. Du coup, les chrétiens qui vivent au Levant vont trouver les musulmans et leur disent « Vous êtes peut-être des musulmans comme les Turcs, mais vous êtes surtout des Arabes comme nous, on va construire un grand espace laïque, social, moderne, transfrontalier, ce qu'on appelait le panarabisme, n'est-ce pas ? Et les chrétiens vont jouer un rôle décisif parce que pour eux, laïcité, ça veut dire finir d'être désigné comme des minoritaires et accéder enfin à une citoyenneté d'égalité, n'est-ce pas ? Et ce sont eux qui vont penser cette révolution au Proche-Orient. On verra pourquoi tout à l'heure, mais pour le dire en un mot, parce que dans le christianisme, il y a quand même une puissance de sécularisation à l'œuvre qui est assez importante. Cette aventure, je vous l'expliquais en deux mots. Le parti Baas, le parti qui va dominer en Syrie et en Irak, avec effectivement Saddam Hussein d'un côté à la fin et la famille Al-Assad de l'autre. Mais l'histoire du parti Baas ne se résume pas à ce qu'il est devenu, n'est-ce pas ? Le parti Baas, pendant très longtemps au pouvoir en Irak et en Syrie, apporter des espoirs réels, et s'il y avait des femmes médecins, des femmes dans l'armée, un relèvement du niveau d'éducation, un sentiment patriotique, n'est-ce pas, d'appartenir à une même nation, par-delà tous les clivages confessionnels, communautaires, etc., ça a été grâce à ce parti. Bon, l'inventeur de ce parti, c'est un chrétien, Michel Aflaq, un chrétien orthodoxe. C'est lui qui a inventé ce parti. Ensuite, encore une fois, je ne vous dis pas que lui-même aurait endossé tout ce que ce parti a pu faire par la suite, ce qu'il est devenu, n'est-ce pas ? Mais il y a un autre lieu où l'influence des chrétiens arabes a été fondamentale. C'est évidemment dans la formation de l'idée palestinienne et dans la représentation intellectuelle du monde palestinien. Quelque chose qui est difficile à concevoir aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on voit le Hamas, n'est-ce pas ? Mais en fait, pendant longtemps, les Palestiniens ont véritablement représenté l'intelligentsia du monde arabe, du Proche-Orient. Et cet effort-là a été véritablement pensé et agi par des chrétiens, parfois à l'extrême d'ailleurs. Hein. Le front du refus, ce sont deux chrétiens, dont le fameux Georges Habash, vous vous souvenez du scandale de son accueil à Paris pour être soigné ? Eh bien, c'était un chrétien. Là encore, je ne dis pas que j'endosse ce que Habash a fait, puisqu'il a été aussi mêlé à une politique extrêmement sévère d'actes terroristes. Ce que je veux dire, c'est que ces chrétiens ont couru leur chance, en fait, d'essayer de former une société ouverte avec leurs compatriotes musulmans, n'est-ce pas ? Alors pourquoi ça n'a pas marché ? C'est un rêve qui s'est écroulé. C'est un rêve qui s'est écroulé parce que très précisément, il y a eu l'affrontement Est-Ouest. Le monde arabe s'est retrouvé pris face à Israël dans cet affrontement Est-Ouest. Il y a eu les guerres israélo-arabes, il y a eu les guerres israélo-palestiniennes. Et que dans tout ce mouvement, en fait, les chrétiens ont été pris dans une logique, là encore, d'étau, n'est-ce pas ? Qui ont fait qu'ils ont fini par pratiquer la surenchère, en fait, sur cette arabité, sur cette islamité même, puisque parallèlement au panarabisme, le panislamisme n'a jamais cessé d'établir une forme de concurrence. Et les chrétiens disaient, il faut d'abord être arabe, et être arabe c'est une culture, c'est une langue, c'est une civilisation, c'est une manière de faire la politique. Et être arabe c'est être chrétien ou être musulman, n'est-ce pas ? Vous vous souvenez peut-être du fait que Yasser Arafat se rendait à Bethléem aux trois liturgies de Noël, la grecque, la latine et l'arménienne. Vous vous souvenez peut-être qu'il a épousé une chrétienne, Soura, qui était la fille en fait, de Raymond Attawil, une grande journaliste palestinienne. Donc, c'était cette époque-là où ces chrétiens donc, incarnaient une volonté de modernisation. Laquelle volonté de modernisation allait avec une volonté de sécularisation, une volonté de citoyenneté et donc aussi une volonté de laïcité, évidemment, dans le cadre de l'histoire donc, que je viens de vous raconter, et qui est le cadre d'une histoire lourde en termes de communautarisme, en termes d'identitarisme, n'est-ce pas ? Donc on ne sort pas de ça non plus, il ne faut pas non plus rêver, on ne sort pas de ça comme ça parce que des politiques l'ont décidé. Mais en tout cas, il y avait un mouvement. Et encore une fois, je dirais, ces femmes travaillant dans tous les divers mondes que je viens de citer, ces femmes dans les années 70 travaillant dans la fonction publique, ayant le visage découvert, étant allées à l'école, devenant maîtresses en quelque sorte, beaucoup plus de leur destin que ne laissait supposer l'état de leur société, c'était ça en fait l'avancement, n'est-ce pas ? C'était ça le signe du progrès, c'était ça l'espoir d'une société ouverte. Donc cet espoir, il est mort sous l'effet du conflit Est-Ouest et sur le fait que ce conflit Est-Ouest a fini par provoquer au Liban la guerre civile. La guerre civile entre les baronites et le reste du Liban, parfois la guerre civile entre les baronites eux-mêmes, les familles Gemayel, Frangier, Chamoun, etc., en sachant que les maronites sont à peu près les seuls chrétiens orientaux qui, au lieu d'être tournés vers l'Orient, étaient tournés vers l'Occident, étaient tournés vers Rome, étaient tournés vers la France et voulaient ne rien avoir à faire avec le monde arabe. Le problème de la guerre civile au Liban, c'est qu'elle a été un argument formidable pour les islamistes de dire, vous voyez, vous ne pouvez pas être chrétien et arabe en même temps, il n'y a qu'une façon d'être chrétien, c'est d'être musulman. La preuve, c'est que lorsque des chrétiens comme au Liban ont le pouvoir, eh bien ces chrétiens-là deviennent le cheval de Troie de l'Occident, de l'Amérique, d'Israël, etc. J'en passe et des meilleurs, selon la rhétorique de la rue arabe. Quoi qu'il en soit de ce qui s'est réellement passé, c'est comme ça que ça a été vécu, c'est comme ça que ça a été représenté. Et comme ces régimes socialistes arabes, en fait, sombraient dans la tyrannie et dans la corruption, et comme, en fait, l'islamisme venait comme une idéologie de substitution et de remplacement par rapport à l'écroulement du marxisme, n'est-ce pas ? Après 1989, l'islamisme a explosé. Et l'islamisme, dans un premier temps, parce que c'est toute sa théorie, n'est-ce pas, a d'abord agressé les mauvais musulmans. Mais très rapidement, comme en Égypte, les mouvements islamistes se sont rendus compte que de tuer des musulmans, de faire exploser des mosquées, ou etc., qui n'étaient pas à leur convenance, ne leur causait pas grande popularité. Et c'est à partir de ce moment-là, dans les années 1990, qu'ils ont commencé à faire des attentats contre les églises, en désignant, en fait, les chrétiens comme des indésirables, comme des gens qui ne devraient pas être là, comme des espions de l'Occident, comme des facteurs de sécularisation. Et en fait, à partir de ces années-là, les chrétiens en Orient ont commencé à jouer le rôle que les juifs ont joué dans la représentation européenne du Xe siècle. À savoir que, effectivement, ces chrétiens étaient des minoritaires qui très souvent ne pouvaient pas travailler la terre, parce que quand on doit partir vite, on ne peut pas vendre ses champs, on n'a pas le temps. Donc, exode rural vers la ville, vie dans des quartiers réservés. Pourquoi ? Parce qu'on se marie entre soi, parce qu'on va à la même église, au même lieu de culte, on pratique parfois des langues différentes, on a l'air étranger. On ne peut pas devenir président de la République, on ne peut pas devenir général, on ne peut pas devenir commissaire de police. Donc on fait des métiers de service, n'est-ce pas ? Hein ? Un peu de banque, un peu de commerce, n'est-ce pas ? Donc on est très mal vu par les autres populations, parce qu'on apparaît comme des populations intéressées. Et évidemment, on se concentre sur l'éducation des enfants, on en fait moins, parce que la culture, c'est le seul bien qu'on a, on veut le transmettre, n'est-ce pas ? Et ces enfants forment une classe intellectuelle qui soit est contestataire, soit est indispensable, et dans les deux cas, sert à stigmatiser encore une fois la communauté comme étant indésirable. Et comme pour finir, on a des cousins qui sont installés au Canada et qui, eux, protestent sur l'état de votre communauté, vous êtes convoqués par le pouvoir politique pour vous expliquer, pour que vous disiez enfin pourquoi vous êtes un traître à la patrie, n'est-ce pas ? Et en fait, cette assimilation des chrétiens d'Orient aujourd'hui dans le monde arabe à ce que furent très malheureusement les juifs dans la société européenne du XIXe siècle est tellement vrai que les traits caractéristiques de l'antisémitisme européen sont repris par la rue arabe contre les chrétiens. Les chrétiens volent des enfants pour les manger à Pâques, les chrétiens empoisonnent l'eau, les chrétiens sont des traîtres payés par, comme l'on dit là-bas, entre très gros guillemets évidemment, la puissance américano-sioniste, etc. Et donc, il a fallu se débarrasser des chrétiens au fur et à mesure que montait l'islamisation. Cela dit, dans ce double rapport que je n'ai cessé de tresser, l'islamisme a sa part, mais l'occidentalisme, si je puis dire, a sa part aussi, parce que le point de rupture et de catastrophe, après 14 siècles de résistance, ça a été en 2003, l'invasion américaine de l'Irak, pour amener de force la démocratie, ou ce qui devait en tenir lieu, avec pour résultat des milliers de pasteurs à bord des tanks, menant un prosélytisme chrétien insensé et désignant à nouveau les chrétiens comme des collabos de la puissance occupante, n'est-ce pas ? Et là, les islamistes ont pu tout à fait développer leur propagande que le chrétien, en fait, était un agent. Un agent de l'ennemi, un agent de l'adversaire, un agent de l'occupant. Au point qu'aujourd'hui, il n'y a plus de présence chrétienne en Irak, au sens d'une présence qui pourrait assumer un rôle historique, bien sûr qu'il reste chrétien par-ci, par-là, mais il n'y en a plus au sens de ce qu'étaient ces chrétiens. Et donc, qu'est-ce qu'ils étaient ? Eh bien, ils étaient cette puissante sécularisation dans un monde où, en fait, l'histoire avait dessiné une définition de l'identité comme purement religieuse. Certes, eux aussi avaient une part d'identité religieuse, mais au fond, c'était ceux qui tenaient le moins à leur identité religieuse, puisque leur identité religieuse avait été un levier d'oppression pour eux. Mais il y a aussi le fait que, malgré tout, dans l'Évangile, il y a cette dissociation entre le règne de Dieu et le règne de César qui permet aux politiques de s'exprimer en dehors du théocratique. Il y a aussi, malgré tout, une certaine idée de l'égalité de l'homme et de la femme, et pour finir, il y a une certaine idée de l'universalité de l'homme chez saint Paul, ni juif, ni grec, pour ceux qui connaissent ces textes. Et donc, les chrétiens, en raison de leur héritage théologico-politique, en raison de leur situation calamiteuse historique à travers les siècles, ont été le ferment d'une sécularisation qui devait apporter une laïcisation, n'est-ce pas ? Hein ? Et c'est pour ça que leur disparition aujourd'hui est dramatique, que ce soit en Irak, en Syrie, mais ils sont aussi menacés en Égypte, ils sont menacés évidemment dans ce qu'on appelle la Terre Sainte, ils sont menacés en Turquie, ils sont menacés partout. Leur disparition est une catastrophe. Elle est une catastrophe pour eux. Parce qu'il n'est pas du tout sûr que même s'ils arrivent à survivre, et s'ils émigrent, et s'ils s'exilent à Sarcelles ou à Melbourne ou ailleurs, n'est-ce pas ? Bien sûr, leur survie matérielle sera assurée, mais peut-être pas leur survie spirituelle, n'est-ce pas ? C'est une catastrophe pour nous, parce que nous perdons un chaînon avec les premières civilisations, nous perdons un chaînon avec les origines du christianisme, nous perdons véritablement aussi une altérité, une différence, n'est-ce pas ? Et puis nous perdons aussi beaucoup de notre propre morale, puisque en fait, nous les laissons mourir sans rien faire. Mais c'est une catastrophe aussi et surtout pour les musulmans, et tous les musulmans d'ouverture qui vont aujourd'hui se retrouver seuls, en plus au sein même de cette guerre civile musulmane entre sunnites et chiites, n'est-ce pas ? Et tous ces musulmans qui ne veulent pas vivre sous le joug d'une définition religieuse de leur être, n'est-ce pas ? Ils vont perdre de puissants alliés. Ces alliés étaient puissants pas parce qu'ils représentaient l'Occident, ils n'étaient pas puissants parce qu'ils étaient chrétiens, ils étaient puissants parce qu'ils étaient impuissants en quelque sorte et qu'ils n'avaient véritablement que ça, cette lutte pour un monde ouvert, une société ouverte, une citoyenneté ouverte à proposer, n'est-ce pas ? Mais c'est un peu, pour reprendre une image évangélique, vous me permettrez, même dans le patronage Jules Vallès, c'est un peu comme le sel de la terre, n'est-ce pas ? Il faut un peu de sel, mais pour donner le goût, mais ce sel suffit à donner le goût. Dans l'ambiance apocalyptique actuelle du Moyen-Orient, nous sommes en train de perdre une partie décisive qui n'est pas simplement celle de la présence chrétienne. Encore une fois, je ne suis pas un particulariste, je ne suis pas un identitariste. Nous sommes en train de perdre une bataille essentielle qui est une bataille d'humanité. Et très particulièrement, parce que j'ai commencé là-dessus et je conclurai là-dessus, dans Alep, aujourd'hui en ruine, n'est-ce pas ? Hein ? Alep qui avait ces milliers de kilomètres de boyaux qui servaient de souk. Alep avec sa citadelle, tout ça qui est effondré, éventré, en ruine aujourd'hui. Mais il y a encore 10-15 ans, dans Alep, on savait qu'on était en train de passer d'un quartier musulman à un quartier chrétien, parce que d'un coup, dans la rue, là, on voyait des gamines. Ces gamines jouaient, elles n'étaient pas voilées. Oui. C'est très exactement ce qu'est en train de perdre l'Orient, et c'est très exactement la bataille que nous sommes en train de perdre. C'est celle, finalement, non pas de la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes, de la liberté des êtres à disposer d'eux-mêmes, et de la capacité qu'ont ou non les êtres humains de pouvoir mourir là où ils sont nés, autrement qu'en étant mitraillés, décapités. Vous voyez ? Tout ça se déroule sous nos yeux, et nous ne faisons rien. Voilà, merci.